gravier. Et au contraire, donc, une sorte de, voilà, un oubli pratique de certains faits qui font que même les arbres ont du mal à s'emparer d'événements qui viennent de la Seconde Guerre mondiale, ou alors de la colonisation, qui connaissent assez peu finalement de déviation artistique.
Et justement, dans votre livre, on va vous demander, alors c'est vrai que tout à l'heure, je vous posais la question, ce que vous écrivez pour oublier ou pour ne pas oublier, mais c'était plutôt en rapport avec votre roman Meuse et l'oubli, qui traite précisément de cette question-là, mais d'un autre point de vue. Mais dans le rapport de Brodeck, celui qui fait le point, c'est justement l'Andorra. Donc, si on cherche la morale de l'histoire, c'est que ce que je ne peux pas vous empêcher, c'est que précisément, il n'y a aucune raison de le mettre à mort, parce que cet homme dont on ne sait pas qui il est, dont on ne sait pas pourquoi il est là, il n'a rien fait de mal. La seule chose qui lui fait de mal, c'est qu'effectivement, c'est celui qui a possiblement une vue sur la vérité de ce que nous sommes, enfin la vérité de cette communauté, et d'une certaine manière, d'en éventer le secret. Donc,
c'est un révélateur pour ce personnage, puisque ce qui précède le meurtre, c'est l'exposition de peinture, enfin de croquis, de dessin qu'il fait. Et donc, soudain, ces villageois sont confrontés à leur propre portrait. Et ce sont des portraits quelque part magiques, puisque ils se voient tels qu'ils sont, vraiment, dans ces portraits, et tels qu'ils sont. Ils voient ce qu'ils sont, c'est même pas ce qu'ils sont, c'est. Ils se voient tels qu'ils ont fait, si on pouvait dire. C'est-à-dire qu'ils voient leur tête. Il a réussi, par le biais de l'art, justement, à transfuser sur le dessin l'acte commis par ces hommes. C'est-à-dire cette lâcheté d'avoir sacrifié le modèle plutôt de l'avoir envoyé à la mort. Donc, mais on en vient toujours au mythe, hein, c'est-à-dire que le Brodeck, c'est quand même quelqu'un qui revient grâce à. Alors, il synthétise le mythe de Rilly Sisophée, c'est-à-dire il revient, il se retourne tout le temps pour revenir vers son Eurydice, simplement il la perd, parce qu'elle est symboliquement morte, elle est mythique, elle ne parle plus, mais on a ce travail sur ce mythe-là. Et c'est drôle que vous citiez Meuse et l'oubli, qui était le premier roman que j'ai publié, parce que j'avais voulu l'appeler dans un premier temps l'oubli, parce que pour moi c'était de l'été, c'est-à-dire ce fleuve magique des enfers, qui ne peuvent les traverser, on sait, donc la construction, enfin, c'est cette espèce de paysage qui est constamment là. Il est presque un peu en mouvement, parce que ça peut donner des choses de l'eau sur une partie de l'écriture. C'est un peu comme une lèvre très prégnante, avec les pieds qui pendent. Mais je pense que les plus loin présents dans le monde, quand vous avez parlé de la grande œuvre, qui était une tentative très très jamais à l'intérieur de moi, je suis rarement en moi-même, je suis rarement avec moi-même, je suis constamment avec l'autre, et je suis constamment en train de m'offrir à l'autre. Et j'ai le sentiment que passer une sorte de frénésie du partage, de la communication, une sorte de, voilà, d'utopie amoureuse, au sens très large, on est en train de vider sa substance, ce qui fait justement l'homme.
Je me permets, hein, parce que juste un mot, c'est intéressant, parce qu'il y a quelqu'un que peut-être vous ne connaissez pas, mais que beaucoup de gens connaissent parmi nous, qui est un jeune philosophe qui a fait ses études à Strasbourg, qui s'appelle Michael Fessel, et qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle La privation d'intime. Essaye de montrer que, après ce qu'on appelle la bipolisation, la politique, etc., il y a une espèce de confusion caractéristique de l'époque entre les catégories de l'intime et du privé. Alors, c'est pas sans rapport avec la thématique dont vous traitez, mais en même temps, avouer, il y a quand même toujours une question.